With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
J'arrivais pas à survivre, j'arrivais pas à transitionner dans ces milieux-là. C'était juste un gros poids sur les épaules. De devoir reprendre les gens, reprendre les clients, savoir que mon identité serait toujours remise en question, savoir que de toute façon je vais me retrouver sur mes fiches de paye avec un prénom que je peux pas avoir. Et c'était très compliqué. Du coup, j'ai dû quitter ça parce que j'ai perdu la tête. Quand j'ai vu que mon compte en banque commençait à souffrir de chômage, et j'ai commencé à chercher du travail et que je ne le trouvais pas. Vraiment au premier stade de ma transition où on ne comprenait pas si j'avais 12 ans, j'étais un garçon de 12 ans ou une fille trop bizarre. Je pense que quand même c'était pas évident de me prendre, sans parler de tout le souci avec les papiers. Bah, du coup, je me suis retrouvé directement d'accord, ok. En fait, je suis précaire, je fais partie d'une classe prolétaire, je ne sais pas, m'en sortir de là.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Alors, je m'appelle Ettore, je suis un mec trans, je suis un migrant italien. Même si j'ai tellement un statut différent de tous les autres migrants, mais j'aime bien mettre un peu au plat ça. J'ai aucune différence dans les faits, je suis venu pour des raisons économiques tout à fait. Genre, pour ma gueule, je suis traité extrêmement différent de tous les autres migrants parce que je suis blanc, mais je reste ça, je suis venu en France pour ça. Je suis du coup un mec trans, du coup mes pronoms sont il, lui. Je suis bi, je suis étudiant, je suis illustrateur, dessinateur, je suis poète. Et tant qu'à faire mon coming out, je suis travailleur du sexe aussi.
Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ?
Je me regarde beaucoup dans le miroir en ces moments. C'est assez important. C'est quelque chose que j'ai pas fait pendant beaucoup d'années. C'était un peu compliqué de me regarder dans le miroir avant. Et je me regarde dans le miroir pour voir mon corps changer, pour voir ma transition avancer. Je commence à voir quelqu'un qui me plaît, déjà. Je vois quelqu'un qui mûrit, qui change. Je m'observe. Je me redessine aussi en regardant dans le miroir. Du coup, c'est... Je sais pas si ça répond à la question.
Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance ?
Mon enfance, c'était la solitude. Je pense que... je pense que c'est le mot qui fait un peu plus partie de ma... qui décrit le plus mon enfance, voilà. C'était une enfance compliquée. Quand je repense à mon enfance, je pense vraiment à des souvenirs un peu de souffrance ou d'être un peu dans ma boule, de ne pas arriver à me faire des amis ou d'avoir des problèmes à me relationner aux autres. Et surtout, je pense que j'avais aussi un truc assez bizarre de ne pas arriver à expliquer cette situation et de me sentir... comment il se peut que je vis si mal mon enfance alors que mon entourage est si tranquille, genre une famille tout à fait normale. Sincèrement, je commence à l'expliquer que maintenant, je commence à raisonner sur ça et à me dire pourquoi mon enfance était si malheureuse en fait. Et d'une part j'ai exprimé ma transidentité très tôt. Et ça n'a pas été pris en considération, et je pense que c'était assez formateur, négatif dans mon identité. Et du coup, devoir m'efforcer à Bah, sans m'efforcer dans des stéréotypes des genres, mes parents n'ont jamais imposé de mettre de rose ou des jouets Barbie. En fait, j'étais assez libre de faire ce que je voulais, mais bah, j'étais pas libre d'exprimer ce que j'étais en train d'exprimer. En fait, je suis un garçon, c'est une de mes premiers dire je suis un garçon à ma mère, c'est un de mes premiers souvenirs. Et je viens quand même d'un milieu assez prolétaire. Moi, mes parents viennent d'un milieu assez prolétaire, et je pense que il y a vraiment un souci d'éducation et d'ignorance, et ne pas savoir en fait que c'était possible que je puisse être un garçon. Et deuxièmement, je m'interroge sur le fait que peut-être je suis une personne neurotypique et que ça influe beaucoup sur mon incapacité à me relationner aux gens, et surtout aux gens de mon âge.
Justement, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ta famille quand tu étais enfant?
J'ai pensé d'avoir toujours une relation assez compliquée avec mes parents. Bah, de toute façon, ma mère était femme au foyer. Du coup, c'était un peu tout mon éducation et la personne que je voyais le plus. Et du coup, il y avait sûrement à moitié amour et à moitié haine. C'est quand même la personne qui était chargée de nous infliger des punitions quand il fallait. Forcément. Mon père arrivait à la maison tard le soir et nous racontait des histoires, du coup c'était un peu la bonne personne dans ma tête. Et, surtout c'était ma seule figure masculine, et du coup je pense que j'ai projeté beaucoup d'affection envers lui pour juste des raisons très basiques. J'ai deux sœurs plus petites avec qui j'ai eu des rapports assez conflictuels. Dans le sens où on n'arrivait pas à jouer ensemble, donc plutôt moi, j'arrivais pas à jouer avec elle. Et du coup, au fur et à mesure des années, soit j'en étais vraiment en conflit permanent, soit on s'ignorait. Et surtout, après avec mes parents, c'est un peu toujours un peu se détacher d'eux en fait. C'est vraiment on a une prise à se détacher d'eux, et surtout se détacher de leur milieu, je pense. Il y avait vraiment une question des classes aussi là-dedans. C'est un milieu prolétaire, mais il y a une particularité parce que mon père, je pense en 2005, un truc comme ça, du coup j'avais 10 ans, il a réacheté les magasins dans lesquels étaient travailleurs salariés. Et du coup, il y a eu une grosse montée des classes, tout d'un coup, juste économique. Que j'ai vraiment vécu, genre on allait en vacances chez mes grands-parents l'été d'avant, et l'été d'après on allait visiter des petites villes en Italie et faire du tourisme. Du coup j'avais un peu cette envie de vraiment ne plus être dans ces conditions économiques un peu restreintes, et de dire il faut que je fasse quelque chose pour me sortir de là. Et ma réponse était un peu la culture et l'école. Du coup c'est vraiment, j'aimais différencier de mes parents parce que je vais apprendre plus qu'eux. Et je vais être plus intelligent qu'eux. Ce qui a ramené beaucoup de classisme dans mon façon de penser. Et que je commence à remettre en question que maintenant. Mais voilà, je pense qu'une des clés principales de la relation avec mes parents, c'était l'effet, on n'appartient pas à la même classe.
Tu as évoqué le fait que ça a été toujours difficile et que tu as toujours d'une manière ou d'une autre affirmé ta transidentité. À l'époque, quand tu es du coup enfant, comment ça se passe à l'école, au collège, quand tu grandis? Quand est-ce que tu comprends que tu es un mec trans?
Comprendre que je suis un mec trans, c'est...
À poser des mots dessus.
Poser des mots dessus, ça date d'un an. Un peu plus, un an... On a des mythes, un truc comme ça. C'est hyper récent. Parce qu'en fait, j'ai quand même grandi dans une culture extrêmement transphobe. Ce qui veut dire que, en fait, ma première relation aux personnes trans, c'était dans... je pense que c'était la première. C'était un journal télé. Où on parlait de fait qu'il y avait eu une espèce de protestation de petits bourgeois de la ville peu proche de mon village contre les prostituées trans qui travaillaient là-bas la nuit. Et voilà, du coup c'était très transphobe, je pense que ça m'étonnerait qu'il parle d'elle en féminin déjà. Et en plus, c'était vraiment. Voilà, après, c'était trans en fait. C'était que ça que j'avais en tête. Du coup, ce que j'ai terminé pour être, mais. Mais bref, c'était un peu ma seule vision de la transidentité et je pouvais pas la rapprocher à moi. Bah, surtout, c'était des femmes trans en fait. Je sais pas, la première fois que j'ai vu un mec trans, c'était bien, bien récent que j'ai compris que c'était possible en fait. Du coup, c'était la transition, la transidentité, c'était quelque chose d'extrêmement éloigné de moi, ça faisait pas partie de moi, c'était la transition. La transidentité, celle qu'on me faisait voir, je pouvais pas la penser mienne. Du coup, c'était. Mais il y avait des autres réponses en fait. Il y avait des réponses très culturelles à ce que j'ai ressenti. Du coup, j'ai très vite pensé de. Soit d'être fou. La folie, c'était c'est quelque chose d'assez pressant. Genre. C'est juste. Je suis trop bizarre, je pense à des choses bizarres en fait. C'est pas vrai. Et deuxièmement, c'était un peu la femme lesbienne, en fait. Et j'ai expliqué pendant longtemps ce que j'ai ressenti comme je suis une fille lesbienne, en fait. Du coup, j'ai droit... toute la masculinité que je ressens en moi, en fait, c'est pas mon genre, hein, c'est ma sexualité. Et tout me faisait penser à ça, en fait. Du coup, tellement pas remis en question. Dans ma tête, un mec trans n'existait pas. C'était pas possible. Mes références étaient Moulin et les films Boys Don't Cry et Billy Tipton, parce que j'avais lu une petite biographie de lui. Et tous ces trois représentations, c'était vraiment fait en sorte qu'on pense à ces personnes comme à des meufs qui se travestissent en fait. C'était du drag en fait. C'était ça pour moi, être un mec trans à l'époque. C'était pas moi en fait. Surtout que j'avais quand même une grosse part de féminité. Du coup, je pouvais pas être même en voyant ces représentations-là. C'était des représentations hyper masculines. Trop masculines en fait. Et j'arrivais pas à comprendre comment je pouvais être si féminin et masculin en même temps. Et y avait rien qui ressemblait à moi, en fait, à ce que je voyais de mon entourage. Et du coup, c'était un espèce de truc individualiste. C'était moi et ma folie et moi et ma représentation de moi-même. Et du coup, j'ai même pas fait des démarches de rechercher ça, en fait. C'était tellement... Surtout que j'étais tellement habituée à être très différente des autres, à être celle dans mon monde, que j'avais pas pensé de faire partie d'une communauté, en fait. Ou des gens qui ressentaient la même chose. En fait, je lisais mes poèmes et les trucs que j'écrivais il y a quelques années. Et il y avait déjà des petites réflexions comme ça. Je vais écrire des choses du genre je veux pas choisir d'être une femme ou un homme. Et il y avait des réflexions comme ça ou de j'aimerais beaucoup être quand j'étais encore plus petit, je veux être un garçon, mais en fait j'avais un peu pris dans le prisme féministe, genre je veux être un garçon, mais en fait c'est parce que la société me dit que être un garçon c'est meilleur qu'être une fille. Du coup, en fait, c'est pour ça que je pense ça. J'arrive pas à trouver exactement les moments où dans ma tête je suis passé de ça à non, mais en fait oui, je suis un garçon en fait, je peux transitionner. C'est sûr que c'est hyper récent, mais le problème c'est que j'ai réalisé ça à l'intérieur d'une dépression. Du coup, mes souvenirs sont assez flous de comment, pourquoi. Mais je sais qu'à un moment c'était clair, à un moment j'ai fait beaucoup de Internet, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai découvert que j'étais un mec trans. C'est lire qu'est-ce que ça fait la testostérone à ton corps, lire que c'est possible de s'injecter des hormones, et regarder beaucoup de youtubeurs trans qui parlent de leur transition, et du coup de m'apercevoir qu'il y a un monde là-dedans, 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 là-d Du coup, ça fait assez vite, hein, ouais. J'ai fait une énorme dépression mai dernier. Où j'étais là, j'en peux plus en fait. Si je transitionne pas socialement et médicalement, je vais pas m'en sortir en fait.
Petite précision, quand tu t'étais en Italie, t'as dit que tu vivais dans un village. Est-ce que tu peux juste nous raconter? Est-ce que c'était un village qui était relativement ouvert d'esprit ou pas du tout? Est-ce que t'allais souvent à la ville ou la grande ville la plus proche? Est-ce qu'elle était plus gay-friendly, la ville la plus proche? Et le climat, globalement, en Italie, vis-à-vis des identités queer?
Alors, grosse question. déjà, c'était un tout petit village. Et je me sentais beaucoup renfermée pour ça aussi. C'était un village qui la ville la plus proche était à 1 heure en voiture. Du coup, il faut avoir une voiture déjà. Il y avait des transports en commun, mais très restreints. C'était vraiment compliqué, même. Je suis allé dans la grande ville, la plus grande ville, pour aller au lycée. C'était assez compliqué de voyager en transport en commun qui. Il y avait un bus tous les heures, ou même plus, qui arrivait toujours en retard et qui, le service terminait à 20h. Voilà. Donc c'était vraiment être isolé. Être isolé, un peu être isolé culturellement aussi, en fait. Du coup, c'était pas très ouvert, je pense. C'était. Tout le monde assume que t'es cis et hétérosexuel. Genre, il n'y a pas de. J'étais pas confronté à la possibilité qu'il y avait autre chose en fait. Si c'était pas sur des insultes en vrai. Genre, sincèrement, j'ai réalisé que l'homosexualité existait genre à 11 ans, pas avant. Avant, Et pourtant, j'ai vraiment vécu des petits amours avec des filles à l'époque, avec des petits enfants comme moi. Tout dans ma tête, mais. Sincèrement, je me rappelle vraiment des petites obsessions pour des filles de ma classe qui étaient à ce moment pareilles à celles que j'avais pour les garçons. Et pourtant, je mettais des mots très différents sur les deux sentiments alors que c'était un peu pareil. Et. Parce que c'était inconcevable. Il n'y avait pas quelqu'un qui me parlait de ça. C'était vraiment des insultes en vrai, c'est moquer des autres à travers des insultes homophobes, c'était clairement ça. Et j'ai ressenti beaucoup de peur juste à m'habiller de façon différente, je le faisais quand même, d'une façon un peu butch quand j'étais tout petit, et quand j'ai commencé à passer vers l'adolescent, je cherchais mon style, du coup. C'était un peu indéfinissable, mais c'est sûr que c'était pas très normal. Et juste mettre des gros chapeaux pour sortir les jours dans mon village, j'avais littéralement peur. Les gens se moquaient de moi beaucoup. Ça a aidé énormément, se moquer de moi. Et après, dans Rimini, la plus grande ville où j'étais au lycée, je sais pas, il y avait un peu les deux. Il y avait vraiment des gens qui s'en foutaient et que c'était. Il n'y avait aucun problème, et même des gens queer dans mon lycée, et en même temps, à côté, j'entendais des remarques hyper homophobes dans les bus, ou même il y avait un garçon avec les cheveux bleus qui passait dans mon lycée, il y avait des commentaires là-dessus, et j'ai ressenti beaucoup ça, ou mes copains de classe au lycée, qui avait un débat tout à fait légitime de dire « Ah non, mais moi, sincèrement, ça me dégoûte de voir deux mecs qui s'embrassent. » C'était une remarque légitime, en fait. Du coup, j'avais très 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 peur de faire mon coming out. Et j'ai évité le plus possible d'en faire. Et quand je le fais, c'était... Déjà, quand j'ai réalisé que j'étais queer, je pense que j'ai eu un moment de bisexualité et puis je suis passé directement à être lesbienne. Wow. Ça m'a pris quand même déjà un an pour réaliser ça. Du coup, faire le coming out à moi-même. Et ça m'a pris un autre an pour faire le coming out à une seule personne. Dans mes amis. Et ça m'a pris un autre an pour faire, ou même deux peut-être, pour faire le coming out à ma mère. C'est que c'est... À chaque fois, c'est tout bien passé, mais c'était peur. Parce que c'était tellement... la possibilité que ça tourne mal était vraiment présente, en fait. Pour parler de l'Italie en général, ouf. Là, par exemple, je sais que je ne rentrerai pas en Italie. Genre, c'est sûr et certain, je ne rentre pas en Italie. Genre, c'est pas possible, je vais... Surtout, je suis de plus en plus visiblement queer. Je pense que je vais pas survivre en Italie en ce moment. Je pense que ça fait au moins 2 ans que je ne suis pas rentrée. Et j'ai pas trop envie de le faire.
Tu disais que tes premiers coming out s'étaient relativement bien passés. Est-ce que t'as commencé à fréquenter des espaces queer? Même si j'imagine que vu que la ville n'était pas très grande, il n'y en avait peut-être pas beaucoup. Mais...
Non, déjà il n'y en avait pas beaucoup.
Ou sur internet aussi, je veux dire.
Je suis en train de réfléchir. J'ai cherché vraiment de construire une petite communauté, de faire amitié avec les personnes queer de mon lycée. C'est sûr, ça. J'ai cherché d'aller dans les bars un peu bar gay, queer. Compliqué à définir des bars queer dans mon lycée, dans la ville de mon lycée. Et, j'avais quand même envie d'être dans ces milieux-là et je savais pas trop comment faire. Même quand je suis arrivée à Paris, en fait. La moutinerie, j'avais découverte après 2 ou 3 ans que j'étais ici. Moi, les espaces, même les soirées, j'ai commencé à sortir en soirée queer. Vraiment, c'est une des raisons qui m'a poussé à réaliser que j'étais trans, du coup, vraiment m'apercevoir de la différence des identités dans les soirées, je pense. Mais j'ai commencé à sortir dans ces soirées-là après vraiment 3 ans que j'étais en France. Je savais pas. Je pense que j'arrivais pas à réaliser qu'est-ce que c'était une communauté. Une communauté queer. Et que du coup, c'était possible de se retrouver ensemble, de faire des choses ensemble, de faire des choses en commun. Je voyais plus, j'avais plus l'idée d'un groupe d'amis où tout le monde était hétéro et il y a 1 ou 2 personnes qui sont queer. Une des lettres de LGBTI. c'était un peu ça pour moi, comment ça fonctionnait le monde en fait. Et après j'ai découvert que non, en fait on peut faire communauté. Et là maintenant, je pense d'avoir peut-être 2 amis hétéreux.
Qu'est-ce qui a changé concrètement de faire communauté avec des personnes queer? Dans ton rapport à toi, dans ton rapport aux autres, à la société?
Ça m'a déjà beaucoup politisé. Ça m'a permis de m'apercevoir que j'étais pas seule, que je pouvais me relationner aux autres, que je pouvais avoir... juste être moi-même dans toutes les facettes de moi-même sans avoir peur. Ou devoir m'expliquer, même si c'était pas de la peur, c'est devoir expliquer pourquoi je suis comme ça, alors que quand avec des gens qui sont tous et toutes... différent, t'as rien à expliquer en fait. Mais quand même, j'ai choisi les milieux dans les milieux queer où il n'y a pas trop d'explications à donner. C'est la possibilité de construire des amitiés plus fortes aussi, je pense. Parce qu'on a des vécus communs, on a aussi des violences communes, des traumas communs aussi. Et c'est quelque chose d'assez intime. Et du coup, tout de suite, ça devient presque, ça devient une famille plus qu'un groupe d'amis, en fait. Et du coup, j'ai un peu récupéré ces trucs d'avoir une famille qui ne me comprend pas. avec mon famille et qu'en fait oui ma mamie comprend parce que bah, parce qu'on est pareil parce que on voit les on vit les mêmes choses. Je pense que c'est un peu ça mon rapport à la communauté. Et bien, pouvoir lutter ensemble.
Et pourquoi est-ce que tu as choisi de venir en France? Est-ce que tu disais tout à l'heure plutôt que c'était pour des questions économiques, est-ce qu'il y a aussi un enjeu de trouver un endroit plus safe?
Bah sur le moment non. Sur mes raisons pour lesquelles je suis venu en France, il n'y avait pas ça, c'est clair. Ce sont les raisons pour lesquelles je rentrais pas en Italie, mais c'était pas les raisons pour lesquelles je suis parti. Les raisons pour lesquelles je suis parti, bah en vrai ça fait partie de ça, mais c'était pas conscient en fait. J'avais besoin de trouver un lieu où je pouvais m'exprimer mieux. Ben, j'avais besoin surtout, je pense que le truc principal, c'était aller pouvoir exprimer mon art, juste avoir des possibilités, avoir des rencontres. J'avais vraiment plus qu'envie de chercher une communauté queer, j'avais envie de chercher une communauté artistique, en vrai. Une communauté intellectuelle. Des gens avec qui pouvoir parler des philosophies. Parce que ben, je suis parti en France en m'inscrivant à la fac de philosophie. J'étais dans un mood très, très philosophe. Je suis encore, mais en particulier à ce moment-là. Et voilà, vraiment, je cherchais des Parisiens intellectuels, mais vraiment un truc extrêmement cliché que je voyais dans les films des années 50. Mais genre, j'étais convaincue de me retrouver avec des gens qui prennent leur café en fumant des cigarettes l'après-midi en parlant de philosophie. Je me croyais d'être dans un film des Romère, en fait. C'était ça que je cherchais, clairement ça. Donc bah, je suis parti pour ça, je suis parti pour venir à Paris, pour l'idée que, des Paris que j'avais. C'était une raison vraiment classiste de je vais trouver mon milieu intellectuel où je vais m'épanouir et me faire de l'argent avec ça aussi.
En fait, donc, ce que tu évoques, c'est le fait d'être un transfuge de classe, au final, donc de sortir de sa classe primale, on va dire. Comment tu le vis désormais, même si tu dis le déconstruire, au final, le fait d'avoir accédé à la culture, à l'art, à la philosophie, est-ce que tu penses que si tu retournais en Italie, tu t'entendrais, tu te retrouverais avec ta famille sur ces points-là?
Bah, je ne me retrouve plus avec ma famille sur ces points-là, je pense, depuis que j'ai 10 ans, en fait. Ah non, mais c'était vraiment un truc, même avant peut-être, en vrai.
Mmh.
Je pense de l'avoir vu surtout à partir des 15 ans, quand j'ai commencé à vraiment... Ma mère est quelqu'un qui adore lire et qui nous a vraiment poussé à lire et à ça, mais quand même vers 15 ans, je suis un peu partie de... Je peux lire tout. Ah, il faut que je lise des trucs, des grands classiques et tout ça. Et du coup, là, c'était vraiment très, très poussé, ces trucs de je suis très différente de mes parents à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un gros changement de ça relatif à ma transition, en vrai. Parce que du moment où j'ai transitionné, je me suis aperçue d'à quel point... Juste avec ces gestes-là, je mettais fin à énormément de mes privilèges. Et aussi à la possibilité de faire énormément de choses. Ben, du coup, ben, là maintenant, ça ne suffit plus. Le fait que je sois très cultivée ou que j'aille des grandes références classiques, en fait. Ben, je n'ai pas accès à ça, en fait. Du moment où j'ai refusé d'être quand même dans... C'était pas juste genre mon identité sexuelle, je pouvais la cacher en vrai, mais je peux pas cacher que j'ai une identité de genre pas conforme, et ça m'est coupé d'énormément de choses en fait. Je m'attendais pas à ça, c'était vraiment un truc que je m'attendais pas, et du coup je dois revoir complètement mon rapport à ma classe. Je me retrouve à être beaucoup plus près d'être précaire. De savoir que j'aurais plus de difficultés dans le monde du travail. Déjà ça, je faisais des petits boulots avant. J'ai travaillé dans une boulangerie pendant quelques années. J'ai dû la quitter parce que j'arrivais pas à survivre, je n'arrivais pas à transitionner dans ces milieux-là. C'était juste un gros poids sur les épaules. De devoir reprendre les gens, reprendre les clients, savoir que mon identité sera toujours remise en question, savoir que de toute façon je vais me retrouver sur mes fiches de paye avec un prénom que je ne peux pas avoir. Et c'était très compliqué. Du coup, j'ai dû quitter ça. parce que je perdais la tête. Quand j'ai vu que mon compte en banque commençait à souffrir de chômage, et j'ai commencé à chercher du travail, et que je ne le trouvais pas. Vraiment au premier stade de ma transition, où on ne comprenait pas si j'avais 12 ans, j'étais un garçon de 12 ans, ou une fille trop bizarre. Je pense que quand même c'était pas évident de me prendre, sans parler de tout le souci avec les papiers. Du coup, je me suis retrouvée à dire tout le monde, d'accord, ok. Je suis précaire, je fais partie d'une classe prolétaire, je ne peux pas m'en sortir de là.
Du coup, là, ça fait 4 ans que tu es en France, que tu découvres ce que c'est que ce pays. C'est quoi maintenant l'idée que tu te fais de ce pays?
Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est la France, en ce moment. Je me sens très parisien. Je pense que je me sens beaucoup plus parisien qu'italien. Je continue à le ressentir comme mon pays d'accueil plutôt que mon vrai pays. Je continue à ne pas sentir natif. Mais en même temps, je suis très imprégné de ça. En fait, je pense en français, clairement. Je pense plus en anglais qu'en italien. Et français et anglais dans ma tête. Qu'est-ce que c'est la France? Je pense que je ne me pose pas la question parce que je pense plus à l'Europe, plutôt. C'est un autre pays européen, c'est un peu ma culture dans le sens très extendu. De toute façon, c'est très utopique le fait que j'aille plus passer la frontière sans avoir des visas ni rien, en fait. C'est assez extraordinaire et c'est très beau, en vrai. Et c'est pour ça aussi que je trouve un peu... je trouve assez beau et utopique et en même temps très absurde d'avoir... de pouvoir vivre dans cette Europe où en même temps il y a des nations si divisées et des frontières qui de plus en plus c'est épaississent. Et en même temps être encore dans cette idée assez folle et utopiste de dire non mais tout le monde peut circuler là-dedans. Et ce serait beau de les étendre un peu tout le monde peut-être. Et c'est pour ça que je revendique un peu mon statut d'immigrant pour dire mais en fait, regardez, mais moi je suis pas différent d'une personne qui vient du nord d'Afrique en vrai. C'est quoi la différence? Expliquez-moi. Il n'y en a pas. Et pourtant, pourquoi moi j'ai aucun souci alors que les autres, c'est les autres. Alors que moi je suis quand même dans ces nous. Et pourtant, sincèrement, je suis beaucoup, j'ai beaucoup plus, je peux beaucoup plus me rapprocher à une personne qui vient d'Algérie qui est née en Algérie et qui a débarqué en France il y a quelques années qu'en personne qui est née ici à Paris en fait. Et pourtant pourquoi moi j'ai fait partie de nous et cette personne hypothétique fait partie des autres? Il n'y a qu'une réalité là-dedans. C'est absurde, c'est assez insupportable en vrai.
Et justement, ça t'a fait quoi de rencontrer tout un univers avec des identités de genre pluriel, des expressions de genre pluriel, tes premières soirées queer?
Mais sûrement, une des premières, c'était l'anniversaire d'un de mes potes à Paris. Oui, parce qu'en Italie, je ne vais pas dire que j'ai fait des soirées queer. On va dire que j'ai fait des soirées où il y avait aussi des personnes queer. Ça, c'est beaucoup plus représentatif. Mais voilà, du coup, c'était cet anniversaire de ses potes, une des premières personnes que j'ai rencontrées à Paris, et qu'après, j'ai découvert qu'elle m'a dit qu'elle était gay, et donc, coucou, je suis bi. On s'est retrouvés là-dessus. Et bref, du coup, j'étais à son anniversaire, et du coup, on est allé dans une soirée, et j'ai un peu découvert qu'il y avait un monde là. Je sais pas si ça m'a frappé cette fois-là, ou peut-être la suivante, mais. J'ai commencé à sortir dans ces soirées-là, genre tout seul, clairement. J'ai pas de potes, je m'en foutais parce que j'avais envie de... J'avais le ressenti où j'étais dans un endroit safe pour la première fois. Actuellement, je dirais pas la même chose. Je me sens plus safe dans les soirées queer, surtout depuis que j'ai transitionné. Je vais pas dire dans les soirées queer en général, mais dans certaines soirées queer. Mais à ces moments-là, oui, j'ai découvert un monde totalement différent. J'ai réussi à faire des amis. Ça aussi, c'était un truc fou. Parce que, bah, parce qu'on était, on était un peu pareil, tout le monde était là-dedans. On était un peu. Cherchait un peu ces trucs très différents du jour. C'était vraiment la nuit et cet endroit, il y avait de la musique. On pouvait danser sans foutre de si on danse bien ou mal. Et on pouvait parler aux gens et, sans avoir peur. Et bah, du coup, j'ai réussi à me faire des amis. Et je pense que c'est très lié à l'amitié et les soeurs queer. Et sortir de la solitude, en fait. Et du coup, j'y allais tout seul. Et j'en sortais, j'étais invité dans des afters, du coup, j'étais avec des gens. Et je me rends compte qu'on pouvait se retrouver ensemble, et j'étais puissant. Et du coup, très vite, j'ai commencé à sortir tous les samedis, tous samedi et vendredi. Mes amitiés, en ces moments, sont presque toutes des rencontres de soirée. C'était devenu mon monde, et c'est l'est encore, en fait. En plus, je me suis mis dans un collectif qui organise des soirées, je suis vraiment dans la dedans. C'était communauté queer soirée, c'était un peu très mélangé. Il y avait vraiment un truc de construire un monde différent, en fait. Vraiment je pense qu'il y avait vraiment ça, de construire un monde différent, être dans un entourage différent. Et c'était très empowering, je pense, à sortir en soirée. Et je pense qu'il y a un autre truc que j'ai découvert, que j'étais pas forcément timide en soirée queer. J'avais vraiment ce truc, étoré et timide. C'était un truc que je me disais moi-même, et que tout le monde me disait. J'y croyais beaucoup. Je croyais que c'était le truc qui me définissait le plus. Bah, déjà, aller en soirée tout seul et réussir à parler aux gens, je me suis rendu compte que j'étais pas si timide que ça. J'ajoute que j'ai commencé à prendre des drogues en soirée et m'apercevoir qu'en fait, du moment où j'avais des barrières qui tombaient, je pouvais pas seulement parler aux gens, mais genre m'exprimer et construire des amitiés. Et juste m'amuser sans avoir peur, en fait, ma peur du jugement des autres. Juste cette petite barrière dans ma tête qui tombait, bah, je me suis rendu compte, mais en fait, ça définit pas ma personnalité. Commencer à faire des soirées queer, c'était vraiment changer mon monde et ma vision du monde.
Et désormais, tu te sens plus safe en soirée queer. Qu'est-ce qui a changé?
Ça a changé, c'est que bah, je suis pas en évidence. Du moment où j'ai commencé à prendre des hormones. Bah, du moment où j'ai commencé à transitionner socialement, du coup, pas à prendre des hormones. Du moment où j'ai commencé à prendre des hormones, où j'ai commencé à avoir des changements physiques pas totalement visibles, bah, déjà, je me suis aperçu qu'on faisait un truc qu'on faisait tout le temps, c'est-à-dire assumer mon genre. Et je me suis retrouvé en soirée queer à avoir des gens qui venaient vers moi, à me parler, ou même mes potes, tout ça, et du coup, à utiliser directement les pronoms elle sans me demander, et ça m'est gonflé énormément parce que bah attends, tu devrais savoir que genre tu vois, tu t'aperçois pas que j'ai quelque chose de flou au niveau de mon genre, pourquoi tu me demandes pas mes pronoms si t'as un doute ou tu n'utilises pas un pronom féminin comme ça. T'assumes pas mon genre comme ça, on est dans ce recul, on devrait être un peu minimum politisé tout le monde, non? Eh ben non, clairement pas. Du coup, bah, déjà j'avais beaucoup de violence que je cherchais de refouler dans ma vie quotidienne et que dans mon quotidien nocturne, j'avais trouvé pareil. Et là, maintenant, que j'ai quand même un bon passing, que les gens assument mon genre de l'autre côté, ce qui me va très bien, mais j'en sais jamais. Bah, je pourrais être une personne non binaire qui utilise le pronom YEL. Et, bah, bref, ça ne change pas le problème. Du coup, je me sens pas safe parce que je m'aperçois que la majorité des soirées sont des soirées cis. En particulier gay cis. Gay cis blanc, encore plus. Je suis un peu confrontée à des questions de violence. C'est un peu compliqué parce que je ne l'ai pas tellement analysé, du coup je vais un peu sur mes ressentis plus qu'une rationalisation de tout ça. Mais je ne me sens pas complètement à place, je me sens différent des autres. J'ai des façons de me rapporter à mon corps, à mon espace personnel qui ne sont pas les mêmes. Bah, j'ai découvert que quand on assume que je suis PD et qu'on me traite comme un PD, genre qu'on me touche en soirée, et ça me dérange énormément parce que je n'ai pas vu. j'ai tellement pas cette culture-là, en fait. Genre, demander mon consentement avant, et que je m'aperçois que ça n'existe pas. Et c'est un peu déroutant. En fait, je suis en train d'analyser un truc sur à quel point il faudrait mettre un peu de féminisme dans les mondes gays.
Preach! Preach!
Et bah, en fait, je l'analyse sur deux points, en vrai, parce que déjà il faudrait les mettre là-dedans, mais aussi le féminisme devrait s'ouvrir des mecs gays, parce qu'en fait, je pense qu'il y a ça aussi, en fait. Du moment où on me considère un mec, et moi je continue à me considérer un mec, je continue même à considérer un homme, alors que c'est pas évident, déjà, disons ça. Les mecs trans, surtout dans les milieux que je fréquente, ne se considèrent en majorité des hommes, parce que homme, c'est homme cis, c'est quelque chose de... Bah, dans le féminisme, c'est vraiment un peu l'ennemi. Et du coup, bah, les mecs trans qui ont baigné dans le féminisme ne peuvent pas se reconnaître là-dedans. Ça me semble logique. Je comprends de plus en plus à quel point quand même tout ce qui est homme cis, que ce soit queer ou pas, ça sort du féminisme. Mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de violences que j'ai subies, qui est la même de celles que j'ai subissées. Des violences que j'ai subies en tant que mec queer, c'est que ce soit cis ou trans, en fait. Que je vois en moi, que je commence à sentir sur ma peau et que je ressens dans les expériences de mes potes, qui est exactement la même de celle que je pouvais voir quand j'étais perçue en tant que femme, dans l'espace public, dans la rue, de me sentir agressée ou de me faire agresser directement. Ou dans des trucs de consentement sexuel, ou juste au travail, de m'apercevoir que j'ai pas le même statut. Et du coup, de me rendre compte à quel point ça n'a changé point du moment où je m'étais perçue par la société en tant que meuf, et du moment où je suis perçue par la société en tant que mec queer. Et de me dire, mais en fait, pourquoi, quand on parle féminisme, on parle homme et femme, alors que... Bah, c'est pas là la différence, en fait, parce que il y a beaucoup de mecs trans aussi qui disent non, mais en fait je sens un énorme changement, j'ai gagné des privilèges, alors que quand je vois mon expérience et quand je parle avec d'autres mecs trans qui ont un peu les mêmes, qui sont quand même perçus en tant que mecs queer, parce qu'on n'a pas des passings parfaits, ou parce qu'on a une part de féminité qui reste, ou parce qu'on est vraiment très évidemment queer, non, la société nous traite comme avant. Un peu différemment, mais en même temps, la violence, ça change un peu, mais à la base, non, c'est la même. Et du coup, je suis là, pourquoi on veut m'exclure du féminisme alors que je suis un mec? Non, je suis un mec queer qui vit les mêmes violences. Intégrons le féminisme là-dedans, en fait.
Je sais pas comment le dire sans nier ce que tu dis. Enfin, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ce soit les mêmes violences. En tout cas, c'est le même responsable, c'est le patriarcat, c'est clair. Mais est-ce que être un homme queer socialement, c'est la même violence que être une femme? Je pense pas. Enfin...
Je nuance mon propos. Je pense que d'être un homme queer très efféminé.
Oui, bah, je suis d'accord avec toi. Et là, ce qui est en jeu, c'est le sexisme, donc le patriarcat, c'est... effectivement, je pense que si tu sens aussi mal, par exemple, en soirée queer, c'est parce que...
Enfin, parce que t'es considéré comme une proie, quoi. Enfin, c'est l'enfer, ouais.
Mais le problème, c'est les mecs, quoi. Mais est-ce que c'est au féminisme d'accueillir tous ces hommes qui se sentent mal parmi d'autres hommes parce que le patriarcat... Je sais pas, est-ce que c'est pas à nous, hommes, queer, et de s'organiser et tout contre ceux qui sont oppressifs, en fait, plutôt que de demander encore aux féministes de nous accueillir et de nous aider et de nous... Tu vois, je pense qu'elles en font déjà tellement, mais je sais pas. J'ai pas la réponse, je réfléchis avec toi.
Bah, c'est pas... Finalement, c'est pas en question d'être acquis là-dedans, c'est juste des... C'est une place, je pense, qu'on a droit d'avoir. Après, c'est vrai que je le vis quand même comme un mec trans. J'aurais jamais le même vécu qu'un mec cis, super efféminé, super queer et tout ça. J'aurais jamais ce vécu-là. Je serais jamais traité en tant que mec cis et j'aurais jamais cette construction mentale-là. Du coup, peut-être ce que j'ai dit, ça s'applique pas vraiment. Mais j'ai quand même la sensation que c'est pas demander au féminisme de nous laisser la place, c'est juste que c'est une place qu'on a le droit d'avoir là-dedans. Et pourquoi faire un mouvement différent alors qu'on pourrait faire partie d'un mouvement plus grand, vu que les violences sont la logique, en fait, les violences sont différentes, la logique de ces violences est la même. Et surtout, ce sont des luttes qui ont besoin de nombre. On nous met dans la tête que la majorité est cis, hétéro et blanche, alors que quand on bien regarder les personnes qui sont privilégiées là-dedans dans cette normativité sont vraiment très peu. On pourrait dire que ce sont des mecs cis, blancs, riches et très dans les normes de genre masculine. Et c'est une énorme minorité de la société. Donc pourquoi ne pas faire un mouvement politique qui englobe tout ça et qui englobe pas seulement les identités queer, alors on englobe aussi les différences des classes en vrai. À ces moments, si on s'aperçoit que la vraie différence n'est pas entre un homme cis gay et une femme hétéro lambda, mais en fait entre ces mecs riches au pouvoir et n'importe quelle autre personne, ben on s'aperçoit qu'en fait la logique sociale qui nous est un peu imposée, l'imaginaire social qui nous est imposé est totalement faux déjà, et surtout qu'on a des croix luttées en fait. Je parle d'une intersectionnalité totale là, disons.
Vous venez en fond de le parti politique extrémité.
Pourquoi pas? Sincèrement, je pense qu'une des choses qui m'a fait plus que mon vécu, qui m'a fait penser à ça, en fait d'intégrer les hommes cis mais qui subissent les patriarcats, c'est des potes qui m'ont raconté des violences sexuelles, clairement des viols, sans réussir à mettre des mots là-dessus. Et j'étais là, mais en fait, moi j'ai beaucoup de féminisme, j'ai beaucoup de vécu en tant que personne perçue femme dans la société. Et ces choses dont vous me racontez, c'est des viols, vous ne pouvez pas les appeler autrement. Et en plus, vous avez droit de les dénoncer, de l'exprimer, de faire ce que toutes les femmes sont en train de faire avec MeToo, en fait. Pourquoi vous ne vous sentez pas légitime? Et je pense que c'est les premiers moments où je me suis aperçu qu'il y avait un problème là-dedans.
On banalise tellement les violences sexistes et sexuelles dans les communautés queer. Et entre mes gars, c'est ouf. Mmh. On trouve ça normal alors que ça n'est pas quoi. Enfin...
Voilà.
Et ça, mais non, arrête de nous diaboliser.
On a déjà plein de choses à régler. Tu vas pas rajouter encore d'autres choses.
C'est pour toi une communauté déjà stigmatisée. Voilà.
Ah ouais, d'accord.
C'est clairement banalisé. Il y a quand même un manque énorme de réflexion féministe là-dedans, de tout ce qui est porté par le féminisme, c'est-à-dire que ces violences-là sont pas normales. Je pense que t'es considéré normal dans les milieux hétéros. Il y a quelques années, c'est-à-dire des violences domestiques et tout ça, et que maintenant on commence à remettre en question, le même passage rhétorique, politique, intellectuel qui s'est opéré là, moi je ne le vois pas du tout dans le milieu gay, ou très, très peu. C'est une banalisation d'un truc que la société déjà banalise en soi. En général, les violences sexuelles sont banalisées dans la société. Culture de viol.
Et je trouve ça intéressant aussi, il y a ce côté où on prône la libération sexuelle, au nom de la libération sexuelle, au nom de le fait de ne pas vouloir salir en fait une communauté, comme tu disais Anthony justement, une communauté qui est déjà stigmatisée, on ferme les yeux quoi, on se met un voile et puis oh c'est pas grave, en soirée, c'est pas grave de se toucher le cul, en fait non, c'est parce qu'on est gay que...
Ah oui, rentrer dans un bargain ne signifie pas que t'es consentant à tout.
Exactement.
Mais c'est pas ça aussi, la liberté sexuelle, en fait. La liberté sexuelle, ça devrait être aussi ne pas se faire toucher le coude par un mec lambda.
C'est sexy, un oui, en fait, à une question, tu vois. Répondre oui ou non, en fait, c'est sexy. Il n'y a pas besoin d'être toujours dans des dominations, dans des non-dits, tu vois, des regards, etc. Où, en fait, toi, t'es complètement apeuré. Personne croit qu'il y a un truc réciproque, alors que pas du tout, en fait.
Clairement. Du coup, je comprends pas. Surtout ça, j'arrive pas à me faire à la drague. Je comprends pas, en fait. sur ces questions-là, je suis totalement dans, pas dans ces mondes. Je n'arrive pas à comprendre. Ça m'énerve aussi. Et je peux pas faire partie de ces mondes-là. Du coup, peut-être c'est pour ça aussi que dans le truc plus personnel, je n'arrive pas à m'intégrer vraiment aux soirées gays et aux mecs gays en général. Parce que je peux pas vous draguer comme vous voulez me draguer, je peux pas me faire draguer comme vous voulez que me draguer, en fait, ça c'est pas possible.
Et ce serait quoi tes soirées idéales?
Déjà, c'est une question qu'on se pose beaucoup dans CoFest, donc je fais un peu la promo de mon collectif. C'est vraiment né avec cette question. Ça serait quoi notre soirée idéale? Qu'est-ce que serait pour moi? J'ai en effet déjà répondu à cette question il n'y a pas longtemps, quand on faisait une de nos réunions. Et j'ai répondu que pour moi, la soirée parfaite, ça c'est une soirée où n'importe quelle personne puisse y aller sans craindre de subir une agression n'importe laquelle, que ce soit dans les trajets, que ce soit à la soirée dans la soirée même. Ça serait une soirée où les gens vont parce qu'ils savent qu'ils vont s'amuser, qu'ils vont se sentir bien et qu'ils vont ressortir ressourcés pour toute la semaine.
Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione, che tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi, per consegnare alla morte una goccia di splendore.
Moi, je voulais parler de ton art. Qu'est-ce que c'est ton art? Question vaste.
Très vaste. Déjà, je suis dessinateur et poète. Et j'ai fait. Et j'aimerais bien de faire des films aussi. Un jour. Faut tes moyens. Mais déjà, j'ai écrit. Je pense que c'est un exercice d'autobiographie surtout. La mienne et celle de mon entourage. C'est beaucoup une réflexion sur ce que je suis, ce que je vis, et à quel point ça peut être un truc qui intéresse les autres, qui peut amener une réflexion, déjà une réflexion personnelle. C'est un outil de réflexion sur ce que je suis, ce que je vis et ce que les autres vivent. Et quelque chose que je veux ramener au monde, en fait. C'est vraiment, pour moi, il y a une visée du public qui est vraiment importante. C'est un tout. Déjà, j'ai vu des choses qui pour moi sont un peu extraordinaires à un moment ou un autre, et je me disais, non, mais en fait, j'aimerais tellement que partager cette joie ou cette horreur ou ces sentiments trop forts que j'ai avec des autres. Du coup, je dois en faire quelque chose, je dois les mettre quelque part, je dois les exprimer, vraiment, dans un sens très large. J'ai envie que les gens puissent réfléchir avec moi. Est-ce que je peux arriver, en faisant mon art, à changer un peu les choses dans le monde? C'est très ambitieux. Mais...
C'est quoi? Tes poèmes, ils parlent de quoi? Tu les écris en français ou en italien?
Un peu, je les écris en trois langues, en fait. Je les écris en français, en italien et en anglais. Parfois, trois langues dans le même poème. Je pense qu'un jour, ça posera souci de traduction. Mais en vrai, c'est une démarche très, très facile. Moi, dans ma tête, je pense en trois langues. Quand j'écris un poème, c'est un peu genre ma tête qui s'est mise sur papier. Mais du coup, c'est un peu logique que j'utilise trois langues. Et parfois, j'utilise une seule avec quelques mots. J'ai commencé à écrire des poèmes vraiment à partir de mes 15 ans, je pense, 14. Et c'était des poèmes d'amour. C'était vraiment surtout ma souffrance amoureuse là-dedans. Et ça continue à être des poèmes d'amour. Des poèmes d'amour et de solitude. Et pas que, mais... De plus en plus, c'est vraiment une espèce de, comment dire, de mise en page de mes pensées. Mais voici les matins très tôt, à estomper avec des mots les relais de la drogue. C'est l'infusée de tes potes qui déclenche leur sérotonine depuis des heures. La tienne, aspirée sous les jambes de DJ Boot. Ça crée cet érotisme candide aux anjos fumés. Parce qu'avec les PD, tu sais jamais quand du jour on s'étale en envie d'avoir tes chevilles autour du cou. Je sais pas si je suis encore désirable. avec mes bites en silicone des liquides blanchâtres qui débutent le sexe au lieu de le terminer. Pourtant, on me paye pour m'entendre gémir, parce que je fais de dégoût ma source de plaisir, du fétiche, ma revanche financière. Je me déshabille sur un lit quand je monte sur scène. Contrat tacite, après de trop longues discussions, j'ai sous les ongles l'ADN de trop de personnes. Et il n'y a que deux ou trois qui connaissent mon actuel prénom. J'ai pris maison à côté d'un cimetière. J'ai appris à en avoir peur. Et mon refuge préféré demeure le poème.
Comment tu décrirais tes dessins ?
Déjà, d'une façon très, très factuelle, j'ai fait beaucoup de portraits et autoportraits. J'ai dessiné énormément la figure humaine, ou les animaux, mais surtout la figure humaine. J'ai du mal avec les paysages. Je sais pas, je cherche de faire quelque chose qui soit un réaliste quand même, mais en même temps un peu stylisé. C'était presque évident de passer à la BD, je pense. Mais je pense que quand même mon style, ça se rapproche un peu de mon style un peu classique des BD. Beaucoup de personnages, beaucoup de lignes noires.
Et tu parlais de bande dessinée, qu'est-ce que tu racontes dans cette bande dessinée justement ? Est-ce que c'est des choses que tu as vécues ?
En fait, j'ai commencé la bande dessinée, j'avais oublié ça, j'ai commencé la bande dessinée parce que je voulais faire un film. Et j'ai commencé à écrire un scénario. Et c'était un peu frustrant parce que j'avais un peu envie de le montrer au monde. Et je savais que j'avais pas des moyens de le faire. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ces scénarios-là, je pourrais les dessiner en vrai, sans devoir les filmer. Et c'était un scénario très autobiographique. J'avais un peu envie de raconter mon histoire. Surtout pour réfléchir à mon histoire. Et j'ai commencé à les faire en sorte d'épisode, de petits épisodes. Bon, j'ai décidé en format court. Parce que ma tête n'arrive pas à se concentrer sur les choses. Ça sert à rien de lutter contre ça. C'est le fonctionnement de mon cerveau. Et du coup, on va s'en rencontre. Donc, mes petits épisodes de 2 pages à chaque fois. C'est ma vie, clairement, sans filtre presque. En fait, les épisodes que je raconte, que j'ai déjà publiés avec des partenaires sexuels, sont des partenaires sexuels, comment dire, bénévoles. Enfin, on dit ça dans le milieu, mais bref. Ah,
c'est génial.
En vrai, à propos du tabou et de la raison pour laquelle j'ai envie de faire une nouvelle série, où je ne serai pas moi, c'est qu'en fait, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler du travail du sexe. Actuellement, il y avait 2 personnes qui connaissaient ça, qui savaient ça de ma vie, et maintenant, il y en a 4, et dans pas longtemps, il y en aura beaucoup plus. C'est un peu quelque chose de récent dans ma vie, et c'est... Il y a beaucoup de poutophobie intégrée aussi dans ma tête.
Et pourquoi tu fais ce coming out ?
Parce que c'est quand même quelque chose qui est présent. C'est quelque chose qui commence à faire partie de mon rapport au monde. J'ai envie d'en parler parce que je me suis dit qu'il y a tellement pas de représentations. Déjà, il y a très peu de bonnes représentations des travailleurs du sexe. Très peu de bonnes représentations des TDS trans. Il n'y a aucune représentation des mecs trans qui font de TDS. Et je me suis dit, bon, à un certain moment, il faudra en parler parce que ça implique beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, en fait, le fait de ne pas en parler, je me suis aperçu que ça m'a mis beaucoup en danger. Parce que ça veut dire que si personne sait ce que je suis en train de faire, je peux me mettre dans une situation dangereuse. Et aussi une des personnes avec qui j'ai réussi à en parler m'a fait bien comprendre que c'était pas complètement sain que j'en parle pas. Et en fait, le fait de lui en parler, ça m'a fait comprendre que c'était très libératoire de mettre des mots dessus et de me dire, mais non, mais en fait, c'est pas grave, déjà. Numéro 1, c'est pas une honte. Numéro 2.
Tu disais que ça impliquait beaucoup de choses d'être TDS, mec trans. Comme quoi ?
En fait, mon passage à ça, c'était aussi de me percevoir à quel point j'étais fétichisée si je faisais des rapports
bénévoles,
voilà. Si juste sur des applis classiques, j'ai commencé à mettre sur Grindr, dire c'était un peu enthousiasmant d'être reconnu en tant que mec sexuellement, Mais finalement, il y avait tellement des fétichismes, des choses assez dégoûtantes, ou de devoir à chaque fois m'expliquer ou faire de la pédagogie. C'était un peu insupportable, genre, non, mais en fait, je cherche pas ça. En fait, je suis en train de faire un travail pour avoir un rapport sexuel. Et donc, bah, les passages, c'était un peu simple. Autant me faire payer. Il y a un truc un peu plus triste là-dedans, mais c'était aussi d'apercevoir que je suis quand même une personne, en tant que mec trans, je suis désexualisé. Je ne suis pas perçue comme un corps sexué intéressant. Et en particulier, je me suis retrouvée à avoir vraiment des difficultés à avoir des rapports sexuels avec des personnes qui m'intéressaient, ou juste rentrer dans un jeu de drague avec des personnes qui m'intéressaient. Surtout quand j'avais pas un super passing, c'était littéralement impossible en soirée d'aborder des mecs. Bah, les meufs aussi, pas mal. Du coup, bah, je me suis retrouvée à avoir quand même relationné avec des gens qui me plaisaient pas forcément. Parce que t'étais les seuls qui étaient intéressés à moi. Et ben aussi, à nouveau, c'était un peu logique de dire oui, d'accord, mais du coup, peut-être que je pourrais me faire payer. Et par rapport à nouveau au fait que j'arrivais pas à trouver un travail autrement, j'étais un peu dans la logique, mais en fait, là, je veux pas faire un travail où le fait que je sois trans pose problème. Ça m'est. Non, mais en fait, non, ça devrait pas être comme ça. Et pourtant, tout travail salarié, ça posera problème. C'était un truc que je dois cacher ou que je dois pas mettre en avant. Alors que c'est une partie importante de ma vie. Et je suis arrivée à un moment où j'avais un peu pas trop le choix. En même temps, j'aurais pu faire autre chose, mais dans ma tête, c'était un peu impossible de chercher un travail où vraiment j'aurais dû mettre un peu en arrière le fait que je sois trans, comme si c'était un truc à cacher. Et ben voilà, du coup, j'ai plus réfléchi à travail qui met en avant ça et qui ben, c'est très justif dans ce sens-là, dans le sens où ben, je me rends compte que mon corps est bien sûr hyper fétichisé parce que on me paye de cette fétichisation-là, mais en même temps c'est intéressant, genre je suis un peu valorisé, il y a un peu de trucs là-dedans, dans ce sens-là. C'est prendre en main ma sexualité et me dire, bah, d'accord, je peux en faire quelque chose.
Est-ce que tu trouves même empouvoirant de tirer profit de cette fétichisation?
Ah, ben oui, clairement, parce que, bah. D'accord, bah, j'assume qu'il y a de la fétichisation là-dedans, mais en fait, il y a un échange aussi. Et, genre, quand je travaille. Je sais pas, 8 heures en travail salarié, je me casse le dos pour faire un truc, être là souriant, genre avec les clients. J'ai passé des mois en dépression et j'étais là à devoir vendre des baguettes en souriant et en faisant comme si j'étais trop heureux. Bah, sincèrement, j'ai beaucoup plus de facilité à avoir un rapport sexuel tarifé avec une personne qui me plaît pas, c'est beaucoup plus facile même. De toute façon, il y a un truc d'exploitation qui est là-dedans, que je fasse n'importe quel travail. Du coup, bah, autant faire un truc qui m'est réussi mieux. Je sais pas s'il y a vraiment un type de client particulier, mais c'est sûr que déjà c'est très restreint. Mais en général, mais déjà, un truc qui est persistant, c'est que ce sont des mecs cis blancs. En grande majorité, c'est sûr qu'ils sont tous des mecs cis, il n'y a pas de femmes, alors que bah, il y a quand même un public féminin possible. Il n'y a pas d'autres mecs trans déjà. Voilà, c'est des mecs cis. Je pense qu'en général, c'est la majorité des clients, mais pour moi, c'est vraiment la totalité. Après, c'est des mecs cis gays ou bi. C'est plutôt ce qu'on attend de moi. C'est presque toujours les mêmes choses. C'est pour ça que je vois vraiment à quel point je suis fétichisée.
Ça peut paraître un peu violent ce que je veux dire, je suis désolée, mais je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de mecs qui se disent hétéros qui font appel à toi. Je pensais que ce serait ça la majorité des clients, des mecs qui se disent hétéros, et que la minorité serait des mecs gays, tu vois.
Ah non, bah absolument pas, absolument pas. Ouais, après, je l'aperçois comme violente cette question. Bah non, moi ça m'étonne pas. Je pense que ça étonne plus mes clients, ah, ça les étonne énormément. J'ai déjà eu des clients qui étaient là un peu s'excuser, à me dire, non mais en fait moi je suis totalement gay, mais tout m'intrigue, tout m'intéresse, des choses comme ça. J'ai envie de faire cette expérience. C'est ça aussi qui est assez intéressant, mais souvent, je ne suis pas un garçon pour mes clients, ça c'est sûr. Hétéro, c'est une personne qui généralement est attirée par des corps, des attitudes, des façons de faire connotées féminines. Pour autant que je me considère un mec assez féminin et que j'aime bien ma part de féminité et tout ça, je ne vais pas l'effacer, au contraire. Je donne à l'extérieur, c'est avant tout masculinité, ce que j'ai envie de donner à l'extérieur. Et ce que je suis dans ma sexualité, c'est quelque chose de masculin. Tout ça, c'est ressenti. Et c'est pour ça que je trouve très imparable dans ce sens-là. Dans le sens où, en fait, je vois que ces trucs que je ressens en moi à l'intérieur, que je vois aussi à l'extérieur en vrai, c'est quelque chose que les autres ressentent aussi. Et c'est ça qui me plaît en vrai dans ce travail. C'est plus les personnes qui me mégenraient ou qui mettaient en discussion mon identité de genre. C'était plus mes clients quand j'avais un travail salarié ou en fait, je n'étais pas déshabillée, que mes clients sur un travail où en fait, c'est mon corps dans sa transidentité le plus visible qui est moins remis en discussion en fait. Et c'est ça que je trouve assez beau.
J'imagine que tu te maquilles pour les soirées queer, mais est-ce que tu te maquilles aussi en dehors?
Ah, clairement. Ça dépend de comment je me sens les matins, mais je maquille très souvent. Et sincèrement, les maquillages, c'est une question très, très importante dans ma vie, en vrai. C'était connoté extrêmement féminin quand j'étais enfant, et du coup, je l'ai refusé. Mais c'était un truc où je pouvais pas me rapprocher aux choses qui étaient connotées féminines, même si elles m'attiraient. Je ne pouvais pas parce que ça m'est ramené à une condition que je ne pouvais pas supporter. Et après, j'ai commencé à faire du théâtre et le maquillage est réapparu dans ma vie dans un sens totalement différent. C'est maquiller pour créer un personnage. Vers 14 ans, et en particulier quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à me maquiller, mais pas de façon... pas de maquillage pour la beauté. C'était vraiment du maquillage expressif. Entre 16 et 17 ans, j'avais vraiment des maquillages très, très particuliers. J'avais des petits dessins, je prenais des heures les matins pour faire des petits dessins sur mon visage. Et totalement une expression artistique, mais totalement, c'était assez horrible. Si je regarde maintenant, c'était pas valorisant du tout, mais ça m'a servi énormément. Et j'ai continué à me maquiller un peu plus de façon beauté quand j'ai eu une période où je cherchais de... J'ai croyé que tout mon rapport à mon genre s'est résolu en étant plus féminin de ce que j'étais. Chose que, disons que c'était un peu le contraire. Ben aussi, il y avait un truc d'estime de soi, en fait, en ces moments-là. Plus qu'encore de me rapprocher des femmes, en vrai. Je me trouve très moche, je me trouve très mal dans ma peau, je ne veux pas me regarder. Et du coup, je me maquille parce que de cette façon, je me sépare un peu de mon corps. Parce que je l'ai recréé, je fais quelque chose. Et voilà, peut-être que je l'ai rend un peu plus beau parce que c'est moins moi. Et du coup, c'était intéressant comment je suis passée d'arrêter de me maquiller au début de ma transition sociale et comment j'ai repris à me maquiller au début de ma transition médicale. Parce que là, le maquillage est devenu un outil de passing parce que je me maquillais des sortes de moustaches fausses quand j'ai commencé à transitionner, que j'avais pas encore d'épaules sur mon visage, que je voulais tellement rien voir. Du coup, j'ai commencé à faire ça, à épaissir mes sourcils, à chercher à faire une espèce de petit contouring un peu masculin et tout ça. Du coup, c'est devenu un outil dans un autre sens. Et là, quand je commence à déjà me plaire, à plaire comment mon corps et mon visage sont actuellement, et que j'ai quand même un assez bon passing à ce sens-là, du coup, on met genre masculin dans les commerces et tout ça. À ce point, je me suis dit, mais attends, mais alors je peux faire n'importe quoi, en fait. Et c'est beau le maquillage, j'adore, c'est amusant, ça m'intrigue. Et je le fais dans les soirées parce que je peux le faire. Si un matin j'ai envie de me maquiller, pourquoi ça devrait changer, en fait? Je ne peux pas faire pourrir tout le maquillage, ça me coûte de l'argent, il faut quand même que je le...
Rentabilise,
voilà, c'est bon là. Il faut que je rentabilise mon maquillage, et voilà, et du coup, je m'amuse, j'exprime ça, du moment où je suis totalement hors de normes de genre, je peux être hors de normes en tout cas.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de la force?
Je pense à ma famille queer, avant tout. Mes amis qui sont ma famille, surtout. J'ai l'impression de ne plus être seule. Et ça fait 23 ans, 24, que j'avais pas ressenti ça. Et ça me donne vraiment de la force parce que là, on peut dire, non, mais trop intéressant ce que tu fais, c'est trop intéressant ce que tu nous dis, ce que tu nous racontes, les choses que tu publies sont trop intéressantes. C'est beau, c'est important. Et ça me donne vraiment de force en fait, de savoir que déjà que j'ai des gens avec qui je peux parler, des choses qui me tiennent au cœur, que je peux être vulnérable. Que je peux l'embêter parce que je suis mal. Je sais pas. Ça, c'est waouh. Et des personnes qui sont plus ou moins proches qui s'intéressent à mon travail artistique. Et ça me donne vraiment de la force.
Et la question de la fin, est-ce que Ettore, tu t'es déjà senti majoritaire?
Du coup, j'avais prévu cette question-là. Je me sens minoritaire en tout ce que j'ai fait en vrai. Dans les mondes dans lesquels je vis, je suis pas considéré la majorité, même dans les mondes queer, je suis pas la majorité. Est-ce que ça m'intéresse de l'être surtout? Je pense que la question c'est clairement non. Bah, cette solitude d'enfance, ça a aussi créé quelque chose de l'ordre de je suis unique, je suis spécial parce que je me sens trop différent des autres. Et du coup, ça s'est posé même pas la question d'être partie d'un groupe, en fait. Ou même, pas totalement, du coup, d'être la majorité en quelque chose. Ben non, je suis pas la majorité. Ben, quand j'étais enfant, ce qui m'a donné force, c'était ça, de me sentir spéciale, de me sentir la minorité extrême, c'est-à-dire une personne. Celle au monde, mais aussi dans ces trucs positifs.
Bah merci en tout cas.
Merci beaucoup.
Mais merci à vous de m'avoir acquis, comme on disait les Mésoaméricains.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
S'il vous plaît, merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.